J'avais à cœur de vous amener une étude au Québec. J'ai eu l'occasion de visiter. Bon, je suis journaliste de métier, mais je suis impliqué à l'Assemblée locale de grand-mère comme enseignant et dans différentes assemblées au Québec. Et depuis 2 ou 3 ans, je présente cette étude-là. Et dans le fond, ce matin, je vais vous présenter ce qui sert d'introduction à une série que je fais au Québec sur les enfants prodigues. Pourquoi cette série-là? C'est que beaucoup de parents vivent la tristesse d'avoir un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Peut-être pas ici, mais en tout cas au Québec, c'est une réalité. Et c'est une série pour encourager ces parents-là. Maintenant, ce matin, si vous avez des enfants qui sont tous sauvés, si vous avez des jeunes enfants, si vous n'avez pas d'enfants, si vous êtes célibataire, ne partez pas, parce que nous allons étudier la parabole du fils prodigue. Et la parabole du fils prodigue nous touche tous, quel que soit notre statut, quel que soit notre âge. Donc, je suis convaincu, et c'est ma prière, que le Seigneur aura une parole pour chacun d'entre nous, même si le sujet est quand même de traiter et d'encourager les parents qui ont des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. Écoutez, j'ose le faire puisque j'ai traversé l'Atlantique, alors je vais me permettre quelque chose. Je vais vous demander un exercice d'humilité. Qui d'entre vous avait un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur? C'est bien. Bien, c'est bien malheureux, mais dans le sens, c'est bien que vous ayez l'audace de lever la main. Partout où je vais au Québec, c'est malheureusement la majorité des parents dans nos assemblées qui ont un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur. C'est notre réalité à nous, mon épouse et moi aussi. Puis je précise le terme « suivre le Seigneur » parce que combien voit-on de jeunes aujourd'hui dans nos assemblées, de jeunes adultes, venir dans nos assemblées, mais sans suivre le Seigneur pour autant? Certains ont beau avoir été baptisés, d'autres fréquenter des camps chrétiens, des écoles bibliques. Le critère de Jésus pour être son disciple, c'est de le suivre. Dans ma tournée d'assemblée, il y a un père qui est venu me voir et qui me dit ceci. Il dit, « Mon fils est sauvé, mais il ne suit pas. » Moi, je ne vois pas ça dans les Écritures. Être sauvé, c'est être disciple. Être disciple, c'est suivre Christ. Malheureusement, je trouve que les parents, nous embellissons la spiritualité de nos jeunes pour pas qu'on ait trop de tristesse dans le cœur, trop de chagrin. On ne gagne rien à embellir la spiritualité de nos jeunes. Et c'est pour ça que la question que je pose, c'est vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, est-ce que ton enfant, vos enfants, suivent le Seigneur? D'ailleurs, dans la parabole du fils prodigue, je vous invite à tourner dans Luc 15, l'Évangile selon Luc, chapitre 15. On va lire le texte tantôt et le verset 11. Luc 15, 11. Tantôt, on lira le texte. Évidemment, on n'étudiera pas complètement la parabole, le temps va nous manquer, mais entre autres, le fils aîné, dans la parabole, avait beau être demeuré à la maison du père, son cœur était éloigné. Lui aussi était un enfant prodigue, mais à sa façon. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'un jeune adulte fréquente nos assemblées qu'il est nécessairement sauvé, qu'il suit nécessairement le Seigneur. Bien, d'entrée de jeu, toutefois, je dois rendre grâce au Seigneur d'avoir permis que 2 de nos 4 enfants suivent le Seigneur. Et je connais certains d'entre vous déjà, et je sais que certains d'entre vous, vous avez ce grand privilège, cette grande bénédiction d'avoir toute votre famille sauvée. Merci Seigneur. Ne permettez jamais à Satan de vous en accorder le moindre mérite. Oui, comme parents, nous devons avoir la responsabilité d'éduquer nos jeunes dans le Seigneur, mais c'est Dieu qui sauve. La gloire lui revient à 100%. Donc, merci Seigneur si vos enfants sont tous sauvés et si vous avez des enfants sauvés, ils ont besoin de prière eux aussi. parce qu'ils ont tout un combat. Nous avons tous un combat spirituel, mais dans une société immorale comme la nôtre, plus que jamais, je pense aux jeunes à l'école, c'est tout un défi. Et donc, prions pour nos jeunes qui sont sauvés. Et merci, Seigneur, pour nos enfants sauvés. Mais aussi, mon épouse Francine et moi, nous sommes en mesure aussi de comprendre la peine de vous qui avez levé la main ce matin, qui avez un ou des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, parce qu'on en a deux, évidemment, qui ne suivent pas le Seigneur sur quatre. Deux sauvés et deux qui ne suivent pas, deux qui ne sont pas sauvés. Et donc, on comprend cette peine-là. Et quelle joie que nous espérons avoir, parce qu'on a cette joie d'avoir des enfants sauvés pour certains, mais quelle joie ce sera un jour, en tout cas, moi, c'est notre prière, lorsque nos deux autres enfants, et c'est notre prière et notre confiance, quelle joie ce sera de les voir venir au Seigneur. D'ailleurs, dans cette série sur le fils prodigue ou retrouver mon enfant perdu que je fais au Québec, je traite pendant plusieurs messages de différents sujets, comme surmonter sa culpabilité comme parent lorsqu'on a des enfants qui ne suivent pas. Surtout qu'on comprend mal souvent Proverbe 22:6 qui est culpabilisant lorsqu'on le comprend mal. Dans la série, je traite aussi de prier les prières difficiles, du genre « Seigneur, fais tout ce que tu as besoin de faire pour que mon enfant vienne à toi. » Parfois, ça peut faire mal, une prière comme ça. Dans la série aussi, je traite de l'amour inconditionnel, où je traite aussi d'enlever ces barrières qui se bâtissent au fil des années avec nos enfants qui ne suivent pas le Seigneur, malheureusement. Bref, beaucoup d'aspects à cette question-là, mais vraiment ce matin, on va se concentrer sur la parabole du fils prodigue. D'ailleurs, dans Luc, chapitre 15, est-ce que je vous avais dit Luc ou Jean? Luc, hein, c'est bien ça, Luc 15. Alors. Dans Luc 15, on ne lira pas évidemment tout le chapitre avant d'arriver à la parabole au verset 11, mais dans Luc 15, on a Jésus nous parle de cette joie de retrouver de ce qui était perdu. En trois paraboles, la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu. Une joie qui contraste avec cette peine de voir nos enfants soit perdus ou soit éloignés. Maintenant, j'aime ça toujours dans un message de mettre ça dans un contexte. Pourquoi Jésus, tout à coup, s'est mis à raconter ces trois paraboles? Bien là, on peut aller voir le contexte au verset 1 du chapitre 15 de Luc. Et tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Verset 2, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Celui-ci reçoit des pécheurs et mange avec eux. » Je mets l'intonation, mais il y a une sorte de mépris. Hein, Jésus mange avec des pécheurs comme si eux, ils n'en étaient pas. Et là, ensuite, il va leur raconter ces trois paraboles. C'est clair que Jésus voulait que les pécheurs l'approchent. Parce que dans un autre passage, il dira, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient quoi? » Perdus. Alors, la question, comment retrouver mon enfant perdu si mon enfant est prodigue aujourd'hui? Comment atteindre mon fils ou ma fille prodigue? Et lorsqu'on vit cette situation-là, puis c'est bon que ceux qui ont tous des familles sauvées comprennent la réalité de ceux qui vivent des situations comme celle-là. Parce qu'il y a deux questions qui hantent les parents d'enfants prodigues. C'est « Qu'ai-je fait de mal pour que mon enfant ne suive pas? » Mais aussi, « Que dois-je faire maintenant? » Aujourd'hui, en 2019. C'est bon de se rappeler une vérité, mes frères et mes sœurs. D'abord, c'est que notre Papa Céleste, notre Père Céleste, ressent la douleur que nous expérimentons comme père ou comme mère d'un enfant prodigue. Faut se rappeler que l'enfant prodigue brise aussi le cœur de Dieu. Et évidemment, notre cœur de parent terrestre est brisé lorsque notre enfant ne suit pas le Seigneur, mais Dieu a cette peine aussi, cette tristesse, ce chagrin dans le cœur. Quand on pleure dans différentes situations, puis parfois, nos enfants qui ne suivent pas nous font vivre des situations difficiles, pénibles. On pleure comme parents, mais Dieu compatit, sympathise à nos larmes. Parce que Dieu veut, non autant que toi, mais même plus que toi et moi, que tous les enfants de nos familles soient sauvés. Et donc, on arrive à cette histoire de la parabole du fils prodigue dans le 15e chapitre de l'Évangile de Luc, au sujet d'un fils qui a décidé de suivre sa propre voie. Avez-vous remarqué qu'on parle de la parabole du fils prodigue, mais je vous défie, je sais que vous êtes des frères et des sœurs qui aimez la parole de Dieu, mais je vous défie de trouver le mot prodigue dans la parabole du fils prodigue. C'est que le mot prodigue tire son origine du mot latin signifiant gaspilleur. Aujourd'hui, on utilise ce terme pour décrire quiconque gaspille soit son argent, soit son temps ou gaspille sa vie. Et c'est un fait que demain matin, quiconque ne vit pas pour Dieu gaspille sa vie, quel que soit l'âge. Je suis en train de faire une autre série au Québec sur Salomon dans Ecclésiaste. Et le titre de ma série, c'est « Leçon d'une vie gaspillée » dans Ecclésiaste 12. Parce que vivre sans Dieu, c'est une vie gaspillée. Et donc, le mot prodigue a le sens de gaspiller ou gaspilleur. Et donc, Jésus nous raconte ces trois histoires du berger qui retrouve sa brebis perdue et qui s'en réjouit, de cette joie de retrouver cette drachme perdue de la part de cette femme. Et avec cette toile de fond de personnes perdant et trouvant quelque chose de précieux, Jésus a raconté la troisième histoire qu'on a devant nous ce matin. C'est au sujet d'un fils qui s'est éloigné de l'amour et de l'acceptation de son père. Maintenant, je pense que c'est bon de se dire que ces trois histoires illustrent comment Dieu nous estime. On est précieux. Hein? Pour une seule brebis, il va abandonner les 99 autres. Je pense que vous êtes comment ici? 99? C'est pas pire. Pour une seule brebis, on est, rappelons-nous, mes frères et mes soeurs, on est précieux chacun à ses yeux. Et nos enfants sont précieux à Dieu. Et lorsqu'on refuse de l'aimer, lorsqu'on refuse de l'honorer, ça brise son cœur. Mais il est patient, son amour et son souci constant pour nous démontrent combien il attend impatiemment les enfants prodigues de revenir à lui. Il attend impatiemment, mais patiemment. Il est patient. Maintenant, quand on lit la parole du fils prodigue, il y en a qui vont dire, « Il va-tu commencer à lire? » On dit ça au Québec, « Il va-tu? » Pas beau, un beau français, là, mais ça s'en vient. C'est commun de s'attarder sur le fils quand on lit cette histoire. Hein? C'est la parabole du fils prodigue. Mais je veux que nous portions notre attention ce matin sur les paroles et les actions du Père. Et c'est pour ça que j'aime me référer davantage dorénavant. Pour moi, ce n'est plus tant la parabole du fils prodigue que l'histoire d'un père merveilleux. Là, je m'excuse, j'en cache sûrement quelques-uns, mais OK. J'aime appeler cette histoire l'histoire d'un père merveilleux, parce qu'effectivement, quel père merveilleux que celui de cette parabole. Voici comment, et là, on y va dans le texte. Voici comment Jésus commence son histoire dans Luc 15, verset 11. Et il dit, « Un homme avait deux fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. En passant, avez-vous remarqué, « Et il leur partagea son bien », ça veut dire qu'il leur partagea aux deux. C'est intéressant, c'est le plus jeune fils qui demande l'héritage, et le père décide de finalement le partagé aux deux. Donc, on a ici au verset 11 et 12, et le contexte semble nous indiquer, le contexte historique, parce qu'on a toujours dans l'interprétation des Écritures le contexte littéral, mais le contexte historique aussi. Tout porte à croire que le père était un homme riche, et c'était la coutume juive de cette époque que l'héritier le plus âgé reçoive les deux tiers des biens à la mort de son père. Et les autres héritiers se divisaient le restant. Et puisqu'il n'y avait que deux fils, le plus jeune recevait, si on en déduit, le tiers. Mais c'est quand même quelque chose de terrible ce que le jeune fils fait. Au lieu d'attendre que son père meure, le plus jeune fils demande à son père de lui donner son héritage. À l'avance. Le fils avait pris la décision de quitter la maison de son père et de prendre sa part des biens avec lui. Maintenant, je vous pose une question ce matin. Est-ce que le père avait le droit de dire non? Effectivement qu'il avait le droit de dire non à cette requête. Mais si le père avait dit non à cette requête, qui était, je me suis informé à Jean-Jacques, si on pouvait dire effronté, je pense qu'il fallait être effronté pour demander ça à son père. C'est comme si tu souhaitais que ton père soit mort pour avoir l'argent. Comment ça a dû faire mal au cœur du père? Et donc, il demande à son père l'héritage. Son père aurait pu dire non, mais s'il avait dit non, oui, le fils serait resté physiquement à la maison, mais son cœur n'était plus là. Et parfois, nous qui avons des fils prodigues, des filles prodigues, des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, parfois ils ont beau être à la maison, mais le cœur n'est plus là. Parfois ils ont beau être à l'assemblée, mais le cœur n'est plus là. Leur cœur est dans le monde, leur cœur est ailleurs. Et donc, le père a dit oui. C'est écrit, il leur partagea son bien, il a dit oui à cette demande effrontée de son fils. Et une leçon qu'on doit retenir comme parent, jeune parent, vous pouvez prendre des notes. Je ne l'ai pas à l'écran, celle-là. C'est le père a permis à son fils adulte de prendre ses propres décisions. Le père a permis à son fils adulte de prendre ses propres décisions. Et ça, c'est difficile comme parent de passer de la figure d'autorité à la figure d'influence, où là, on permet à nos enfants de prendre leurs décisions. Ce n'est pas nous qui sauvons nos enfants. Ils doivent décider pour eux d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et c'est notre prière qu'ils le fassent. Mais même si ça nous fait mal, on doit accepter, lorsqu'ils sont adultes, qu'ils prennent leurs décisions. C'est ce que le père a fait. Il n'a pas retenu le fils prodigue à la maison. Il dit, « Vas-y. » à l'héritage. Et quel que soit l'argent, le montant qu'il a reçu, on ne le sait pas. Ce qui nous est dit, c'est qu'il a tout gaspillé. Regardez le verset 13, l'histoire se poursuit. Et peu de jours après, ça démontre qu'il avait hâte de quitter le foyer. C'est rapide. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné le plus loin possible du père, tellement qu'il ne veut plus être à la maison de son papa. Et que fait-il avec cet argent, cet héritage? Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous savez, dans l'esprit des enfants prodigues, la meilleure place à être, c'est loin de toute autorité morale qu'il n'aime pas. Lorsqu'un enfant grandit dans des foyers chrétiens, dans l'assemblée, puis grandit, puis vieillit, puis ne donne pas sa vie au Seigneur, c'est quoi les premiers symptômes? C'est que tout à coup, on les voit moins à l'assemblée. Tout à coup, on les voit s'éloigner des choses de Dieu. Il y a toujours cet aspect d'éloignement parce que dans l'esprit des enfants prodigues, la meilleure place à être, c'est loin de toute autorité morale qu'ils n'aiment pas. Puis un pays éloigné, c'était un endroit littéral pour ce jeune homme-là. C'était vraiment loin, physiquement parlant. Mais c'est clair que la séparation émotionnelle et spirituelle crée un faux sentiment de bonheur. Lorsque nos jeunes grandissent, vieillissent, ne veulent pas suivre le Seigneur, tout à coup, le monde les attire, puis là, tout à coup, ils veulent aller loin. Et là, ça donc, c'est waouh, le monde, hein, le plaisir du monde, l'attrait du monde. Et c'est pour ça que je dis que la séparation émotionnelle et spirituelle crée un faux sentiment de bonheur. Là, le jeune se pense maintenant libre. Libre de ses parents, libre de l'assemblée. Mais autre vérité que le texte nous appelle à reconnaître, c'est que l'enfant prodigue a vite découvert que toute décision, bonne ou mauvaise, a des conséquences. On a le choix de nos décisions, mais on ne choisit pas les conséquences de nos décisions. Et c'est pour tout le monde, ça. On prend des bonnes décisions, on en prend des mauvaises, il y a des conséquences. Et l'enfant prodigue, dans l'histoire, découvrira rapidement que sa décision de quitter, de dissiper son bien, de vivre dans la débauche, aura des conséquences. Et un autre texte qu'on va continuer à lire, c'est au verset 14, la suite de l'histoire. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença d'être dans le besoin, verset 15, il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux, verset 16, et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient et personne ne lui donnait rien. Autre vérité qu'on peut déduire de ce passage, c'est que chaque enfant prodigue, on l'a à l'écran, atteint un point où son plaisir tourne en famine. Le plaisir du monde est passager. Tôt ou tard, il y a des conséquences. Et tôt ou tard, il y a une famine qui s'installe. Même si on a beaucoup de biens matériels dans le monde, il y a ce vide qui est là. Et entre autres, l'importance d'éduquer nos enfants dans la foi chrétienne, c'est qu'ils ont cette semence dans le cœur qu'ils ne perdent jamais. Oui, ils éteignent leur conscience, mais cette semence, ils l'ont. Et tôt ou tard, le plaisir du monde tourne en famine. Les mauvaises décisions mènent à la banqueroute spirituelle, émotionnelle. Et Dieu, dans sa sagesse, a conçu, non pas le péché, mais les conséquences du péché pour nous rendre désespérés. Puis, les enfants prodigues et tout pécheur perdu essaient souvent de remplir le vide avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Dans le cas du fils prodigue, c'était la débauche. Je pense qu'en 2019, c'est souvent encore la débauche pour remplir notre vide. Les plaisirs sexuels, immoraux, dans une société, je ne sais pas comment ça va en Suisse, mais au Québec, qui encourage, et l'État encourage l'immoralité. Mais ça peut être dans les drogues, dans l'alcool, dans le travail, dans toutes sortes de faux dieux, dans le fond. Mais avec le temps, il commence à vivre seul dans une porcherie. Mais pendant ce temps-là, avez-vous imaginé, on n'y pense pas souvent, le fils est parti avec l'héritage, vivre sa vie. Hein? Ça, c'est une expression, on le dit au Québec, vivre sa vie. Wow, ça, non, non. Vivre sa vie pour Christ, il faudrait rajouter, ça, c'est valable. Vivre sa vie, c'est la gaspiller. Mais avez-vous imaginé ce que le père, imaginez votre enfant s'en va, et mettons-nous à la place du père ce matin, le fils prodigue est parti avec son héritage, mais que vit son père à la maison? Que vit son père à la maison? Imaginez le texte ne le dit pas. Évidemment, il n'y avait pas de courriel dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Mais imaginons que, de quelque façon que ce soit, le père a reçu un mot au sujet de son fils, où il était rendu. Imaginez le père s'il apprend que son fils est rendu dans un pays éloigné, en famine, et qu'il est en train de nourrir des pourceaux. Imaginez pour un homme juif ce que ça signifie, ça. Avoir un fils associé à des pourceaux, c'était la pire honte dans le contexte juif qu'un parent pouvait expérimenter. Culturellement, c'était pire que toute dépendance, tout comportement criminel, toute immoralité sexuelle que de voir son fils associé à cette impureté. Et je me plais à imaginer, le texte ne le dit pas, mais si jamais le père avait eu des nouvelles de son fils, comme nous, comme parents d'enfants prodigues, parfois on a des nouvelles de nos enfants adultes qui vivent dans le monde, avec toutes leurs difficultés, leurs problèmes. Supposons que son père entend dire que son fils est en train de nourrir des pourceaux, il n'a plus un sou. Peut-être, est-ce que je devrais lui envoyer d'autres argent? Est-ce que ça l'aiderait? Vous savez, si le père avait su où était son fils, puis si le père avait décidé d'envoyer d'autres argent, et parfois les parents d'enfants prodigues, on vit ça, hein? Nos enfants se mettent dans des problèmes, puis là on dit, bon, on va l'aider encore. Mais jusqu'où qu'on l'aide? Mais s'il avait fait ça, le père, le fils sera encore dans son pays éloigné. En passant, personne ne sait combien de temps le fils est parti. Mais alors que les années ont probablement passé, le père a sûrement évalué les choses. Vous savez, votre fils part pour un pays éloigné, vous ne savez pas où il est rendu, et le père, il était fait de la même chair que nous, a probablement regardé à sa vie passée avec son fils, il a peut-être dit, est-ce que j'ai fait la bonne chose de lui donner son héritage? Parce que comme parent, on peut vivre des regrets, hein? Parce qu'on n'est pas des parents parfaits. On a fait tous des erreurs. Et si on devait recommencer, on ferait d'autres erreurs. Alors, le père a sûrement eu ses questionnements aussi. Est-ce que j'aurais pu passer plus de temps avec mon fils? Est-ce que j'aurais pu surveiller avec qui il se tenait? Avec qui il jouait? Bref, la culpabilité a peut-être tourmenter le père aussi pendant que le fils est loin. Mais le temps passe et l'enfant prodigue atteint un point où son désespoir tourne en brisement. Et là, on retourne dans le texte au verset 17. Et quel beau texte! Verset 17, « Le fils a tout perdu, il est avec les pourceaux, il n'a plus rien. » Et c'est ça qu'on souhaite entendre de nos enfants prodigues. « Et étant revenu à lui-même, » dira Darby, « étant rentré en lui-même, » dira Second. Mais j'aime bien la version littérale ici. « Étant revenu à lui-même, on a-tu hâte? » Excusez-moi cette expression-là qui n'est pas bonne. « On a-tu? » Mais Claudine est très contente que je la dise. Est-ce qu'on a hâte que nos enfants reviennent au Seigneur ou viennent au Seigneur et se ressaisissent, reviennent à eux-mêmes? Et voici ce qu'il dit quand il revient à lui-même. Il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici de faim. Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » En passant, autre vérité de ce texte, c'est que le père sage savait que le brisement était le seul remède à l'orgueil de son fils. Le père sage savait que le brisement était le seul remède à l'orgueil de son fils. Seul le brisement amènerait le fils à penser à la maison. Et c'est ça la beauté d'instruire nos enfants dans le Seigneur lorsqu'ils sont jeunes, c'est que plus tard, ils peuvent revenir à la maison. Ils ont cette semence. Le fils se souvenait de la maison de son papa, se souvenait combien il était bien là. Et pour nous, comme parents, comme tout parent, la plus grande lutte pour tout parent d'enfants prodigues, c'est d'attendre ce fameux brisement-là, c'est d'attendre que le brisement arrive et combien on a hâte que nos enfants brisent. Au lieu de s'entêter à vivre dans ce monde sans Dieu, avec tous les problèmes dans lesquels ils sont plongés. Et comme parents, on a toujours tendance à dire « je te l'avais dit », à ne pas dire « mais je te l'avais dit ». Mais il faut que le brisement arrive. Il faut que le brisement arrive. Et c'est merveilleux parce que le brisement arrive. Maintenant, le fils se demande comment mon père va réagir. Lui qui a tout gaspillé son héritage. Oui, il rentre en lui-même. Lui, il réalise à quel point il était insensé de quitter le foyer. Oui, il veut retourner à son père, mais comment mon papa va me recevoir? Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'au verset 18, il répète même ce qu'il veut dire à son père, tellement qu'il a peur. Je vais lui dire ceci, ceci, ceci. Regardez le magnifique verset 20. Les trois petits mots du début du verset 20, c'est important. « Et se levant ». Pourquoi je dis ça? C'est qu'il avait l'intention de se lever, d'aller vers son père. Mais encore fallait-il qu'il se lève. Tu sais, les bonnes intentions, hein? Je vais faire ci, je vais faire ça, mais finalement, on ne le fait jamais. Non, il s'est levé. Il se leva. Et il vint vers son père. Wow! Il vint vers son père. Et là, j'aime la suite du verset. Vous les connaissez bien, ces textes-là, de toute façon. Et comme il était encore loin, j'ai des frissons à lire ça à chaque fois. Et comme il était encore loin, puis on voit la fenêtre ici, puis... Et comme il était encore loin, son père le vit. Ça me dit quoi, ça? Ça nous dit quoi ce matin? C'est que son père devait regarder souvent par la fenêtre. Quand est-ce, à quand le retour de mon fils que j'aime? C'est ça l'amour inconditionnel. Et combien de fois il a dû regarder à travers la fenêtre, à travers ses jours, ses mois et peut-être ses années? Et tout à coup, un jour, il regarde par la fenêtre. Il le voit de loin. En passant, nos enfants ont tous des démarches, hein, tu sais, qui leur sont propres. Ils reconnaissaient sûrement sa démarche au loin. Il ne devait pas en croire ses yeux. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Son père le vit. Et il s'est croisé les bras comme ça, puis là, il l'attendait. Toi, mon enfant, qui a tout gaspillé. Non. Son père le vit, le texte nous dit. Il fut ému de compassion, et ça, c'est les entrailles. Et comme parent, là, je pense qu'on comprend que parfois, ça ne se dit pas, parfois, ça vient nous chercher dans nos entrailles, ce que nos enfants nous font vivre, mais l'amour qu'on a pour nos enfants. Et le texte nous dit qu'il fut ému de compassion malgré ce que son fils avait fait. Et là, il n'est pas sorti tranquillement de la maison pour aller vers son fils, non. Le texte nous dit qu'il a couru. Il a couru à lui. Et le texte va plus loin encore, il a couru à son fils, et il s'est jeté à son cou. Et là, imaginez le fils qui revient de travailler avec des pourceaux. Je ne pense pas qu'il sentait bon. Mais l'amour n'a pas d'odeur. Quand c'est nos enfants, on les aime. Quel que soit leur parcours. Et là, qu'est-ce qu'il fait? il le prend dans ses bras. Et le texte nous dit, le couvrit de baisers. Et là, il n'arrête pas de l'embrasser, son fils, puant. Puis, le fils, il lui dit, Père, il lui dit ce qu'il avait répété. Il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais c'est intéressant, il n'y a pas le temps de dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parce que pour le Père, c'était déjà pardonné. C'était déjà pardonné. Pas besoin de me confesser plus que ça. Tu es dans mes bras, je t'ai pardonné. Quelle belle histoire. Et puis le verset 22, « Mais le Père dit à ses esclaves, parce que là, probablement, les serviteurs suivaient le Père, il disait à ses esclaves, « Hé, apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds et amenez le veau gras et tuez-le et mangeons et faisons bonne chair. Pourquoi, Père? » Verset 24. « Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était quoi? Perdu. Et il est retrouvé. » La réunion décrite par Jésus, c'est le désir de toute personne qui aime son enfant prodigue. Vous savez, j'aime cette petite phrase, « Pour les enfants prodigues, ils viennent avec l'espoir de la grâce. Pour les membres de la famille qui attendent, ils viennent avec la grâce de l'espoir. » L'amour motive les deux. Pour les enfants prodigues, hein, imaginez le fils qui revient à la maison avec l'espoir de la grâce de son père. Il espérait que son père soit gracieux, et nous, on a cette grâce de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir que nos enfants soient sauvés. Merci Seigneur s'ils sont tous maintenant. Mais s'ils ne sont pas tous, ne perdons pas espoir. Continuons à prier. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est intéressant, avant la réunion, avant cette rencontre entre le Père et le Fils, c'était les actions du Fils qui étaient les plus importantes dans le texte. Mais une fois que la réunion est faite, ce sont les réactions du Père qui ressortent du texte. Dans cette histoire, le Père a restauré la dignité du Fils repentant. Et le parent ravi a ordonné au serviteur d'emmener une robe, un anneau et des sandales. Pourquoi la plus belle robe? Mais c'était pour l'invité d'honneur. Voilà qu'il l'a donné à son fils, qui avait tout gaspillé dans la débauche. Et il lui donne la robe d'honneur. L'anneau, signifiait sa position en tant que fils. Il lui donnait l'anneau parce que tu es mon fils. Et ses sandales voulaient dire qu'il n'était pas un esclave, contrairement aux serviteurs qui n'avaient pas de souliers, de sandales, qui étaient pieds nus. Non, mon fils, il est mon fils, il est digne, il n'est pas un esclave, c'est mon fils. Écoutez, en passant, ça nous parle de notre propre salut. Hein? Ça parle à quel point on a été revêtus de Christ. Qu'on est ses enfants maintenant. En passant, le père aurait eu tous les droits de demander des comptes à son fils, hein, à lui faire des reproches. En passant, on a un Dieu qui ne nous fait pas de reproches. On a un Dieu qui nous pardonne. Oui, un Dieu qui nous corrige, ou un Dieu qui nous parle. Mais il nous aime. Une fois qu'il nous pardonne, il nous pardonne. J'aime bien cette petite phrase aussi. Le père a utilisé la sagesse quand son fils est parti, mais maintenant il l'exerce quand il revient. Le père avait cette sagesse de laisser partir, même si ça lui faisait mal. Il avait cette sagesse de laisser son enfant adulte prendre ses propres décisions. Mais maintenant, il a cette sagesse de bien l'accueillir. de bien l'accueillir. En passant, ça, c'est une leçon pour nous. Dans nos assemblées aussi, on en a des brebis prodigues qui ont connu le Seigneur, qui se sont éloignées. Sont-elles sauvées ou pas? On ne sait pas. Mais lorsqu'elles reviennent, oui, il y a parfois des matières à discipline, oui, il y a matière à... Mais soyons accueillants. Soyons accueillants. En passant, le fils aîné, on n'a pas le temps de voir cet aspect-là, mais le fils aîné, lui, a échoué à comprendre l'attention que son père donnait à son frère. Pour le frère aîné, ça ne semblait pas juste. Ça ne semblait pas juste. Ça, c'est les pharisiens, ça. Ça reflète les pharisiens. Une petite pensée. Dieu t'estime, toi et ton enfant prodigue. Il désire un changement dans le cœur de ton enfant prodigue, autant que toi, mais même plus que toi. J'ai le goût de vous laisser avec une question. Est-ce que ça se dit une question quiz? Avez-vous remarqué dans cette parabole qu'il y a un troisième fils? Saviez-vous ça? Retournez au verset 11. Et il dit, le « il » c'est qui ça? C'est Jésus. Jésus est quoi? Est fils de Dieu. Et Jésus, à sa façon, a lui aussi quitté un jour la maison du Père. Mais lui a quitté la maison du Père un jour, non pas par désobéissance, mais par obéissance. Puis le Fils de Dieu, lui aussi, est allé dans une terre lointaine, le monde. Et le Fils de Dieu, lui aussi, est venu dans un monde de famine spirituelle. Et le Fils de Dieu, contrairement au Fils prodigue, qui a vécu dans la débauche, le Fils de Dieu, pendant son séjour dans la terre lointaine, a vécu dans la sainteté parfaite. Il était parfait. Mais le Fils de Dieu, ce qu'il attendait, ce n'était pas un anneau au doigt ou des sandales aux pieds, c'était des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Pour que nous qui étions morts spirituellement, nous revenions à la vie. Quelle belle histoire que cette parabole du Fils prodigue. Que le Seigneur nous encourage d'abord à apprécier notre salut parce qu'on était tous des enfants prodigues, on était tous des éloignés de Dieu, on était tous, non pas des tous, on n'est pas tous, je ne veux pas tomber dans la fausse doctrine qu'on était des fils et des filles de Dieu, on était des créatures de Dieu, devenus des fils et des filles de Dieu par la foi et la repentance. Mais un jour, on est rentré en nous-mêmes. Hein? Parce qu'en passant, on ne peut pas, il n'y a pas de salut sans repentance. Il faut que ça passe par un brisement. Qui que nous soyons, tout pécheur ne peut pas venir à Christ sans repentance. C'est pour ça que dans notre prédication, on doit prêcher, oui, la foi, mais la repentance aussi. C'est ce que les apôtres prêchaient, la foi et la repentance. Alors, il n'y a pas de brisement, il n'y a pas de salut sans brisement. Et un jour, on a vécu ça, je présume qu'on est tous des enfants de Dieu ce matin, on a vécu ce brisement dans nos vies. On est rentré en nous-mêmes par l'Esprit et on est devenu enfant de Dieu. Et maintenant, nous avons notre Papa céleste. Merveilleux ça. Puis à vous, les parents qui avez levé la main ce matin, je vous encourage à persévérer dans la prière. Lâchez pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que, je suis convaincu que Dieu a la puissance de sauver toutes nos familles. Tous nos enfants, puis je jasais avec certains, ils ont des petits-enfants, puis des petits arrière-petits-enfants. Dieu a le pouvoir de sauver toutes nos familles. On va prier. Ô Seigneur, quelle histoire touchante. Et Père, merci de nous avoir ouvert à ces pages ce matin de ta parole. Seigneur, tu as raconté cette histoire qui est dans ta parole, qui est arrivée à nous en 2019 par ta parole immuable. Seigneur, je veux que tu consoles ces parents ici dans cette salle, dans cette église locale, dans cette assemblée qui vivent la peine, la tristesse, le chagrin d'un enfant ou de plusieurs enfants qui ne te suivent pas. Encourage-les aujourd'hui par ta parole. Et on te rend grâce pour tous nos enfants qui sont sauvés, sachant que c'est une pure grâce. Et Seigneur, pour ceux qui ont des jeunes familles, on te demande de les encourager à élever leurs enfants dans le Seigneur, pour qu'ils aient cette semence où ils pourront prendre la décision de te suivre, de t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et Père, merci pour tous ceux qui sont ici ce matin, parce que qu'on soit célibataire, marié, parent, d'enfant ou sans enfant, chacun d'entre nous, on avait besoin de rentrer en nous-mêmes et un jour, tu as saisi notre esprit par ton esprit pour qu'on le fasse. Et tu nous as brisés au pied de la croix. Sois béni, Père, et bénis cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.